Bonjour à tous, on approche aujourd'hui ma secrétaire d'Afra Avdalet à la Mishnah. Mitzvah Begadol. Qu'est-ce qu'il doit faire le hiboum? On passe par le plus grand. Léabem, c'est lui qui doit faire le hiboum. Vikadam Akatam. Mais si un des enfants plus jeunes a fait hiboum Zacham, donc c'est sa femme et c'est validé. Tanoura Banan. Il est marqué dans la Braïta, dans le Pasuk, Vaya Bechor, donc l'aîné qui va naître. On comprend que, quand on fait cette lecture simplement, on parle de l'enfant. Mais la Braïta nous dit non. Mikan chez Mitzvah Begadol Yabem. Donc de là, on apprend que c'est le Bechor qui doit être celui qui va faire le Yiboum, parce qu'on va faire suivre les deux Psukim. Le Psuk précédent nous dit le Kachalo Leisha Vivma, il doit faire Yiboum. Vaya Bechor, qui est-ce qui va le faire? C'est l'aîné. Asher Teled, Prat Laïlonitchen, il est dette. Donc, on a besoin que la femme du défunt soit une femme qui peut avoir des enfants et non pas Aïlonit. Yakum Alshem Riv, donc le Yavam va remplacer son frère l'Enachala, c'est-à-dire qu'il va être le seul à hériter des biens de son défunt frère. Attends, mer l'Enachala ou Enon Alshem. Peut-être que ça ne veut pas dire qu'il va hériter, peut-être que ça veut dire qu'il va donner le prénom de cet enfant et va le donner sur le nom du défunt. Yosef Koyenoto Yosef, Yohanan Koyenoto Yohanan. Donc peut-être que ce passage qu'on devrait l'expliquer. Que, non pas au sujet du Yavam, mais au sujet de l'enfant qui est né, Veya Bechor, c'est l'enfant qui est né, il va prendre le nom de son père. Ne'emar kan Yakum Hashem Achiv, il est marqué dans le pasuk de Yiboum, Yakum Hashem Achiv, il va remplacer ses frères, il va remplacer son frère. Ne'emar l'alam, Hashem Achem Ikaru Benachalatam, au sujet de Ephraim Menaché, il est marqué que Hashem Achem Ikaru Benachalatam, ils vont être nommés sur le nom de leur frère, dans l'héritage de la terre d'Israël. Masham Hamor Lemal, Masham Hamor Lemal, Alan. De la manière que ce qui est marqué, au sujet des enfants de Sef, on parle de l'héritage. Avshem Amokan l'Enachala, on parle donc d'héritage, et donc le pasouk nous parle non pas de l'enfant qui va naître, mais du Yavam. Veloyemacheshmo, et son nom ne sera pas effacé, Prat les Saris, ça vient exclure le Saris. Le Saris est celui qui ne peut pas avoir d'enfant de naissance, Sheshmo Machoui, donc de toutes les façons, lui ne pouvait pas avoir d'enfant, donc on ne va pas demander à son frère de venir le remplacer pour qu'il ait des enfants. Amarava. Bien qu'en général, on a une règle qui nous dit que si on déduit quelque chose à Pasuk, on va le conditionner d'une certaine manière. Mais on va quand même rester avec le Pshat Pashut, avec la traduction littérale, avec l'explication du Pasuk. Donc bien qu'en général, dans toute la Torah, le Pasuk doit être étudié tel qu'il était. Ici, la Gzera Shava est venue. Et nous enseigner qu'il n'y a aucune obligation de nommer l'enfant défunt sur l'enfant du défunt sur le nom du défunt. Demande la Gemara, Vilah Gzera Shava, Vamina, Shem Shem Mash. Quoi, c'est que la Gzera Shava qui est à consécuter. S'il n'y avait pas la Gzera Shava, on aurait dit que le Shem, c'est-à-dire qu'il doit être nommé sur le nom de son père. Le Man Kamazar Rahmana. Le Pasuk s'adresse à qui? Les Yavam, s'il s'adresse au Yavam, Yakum al-Shem Achicham Baile, on aurait dû dire, donc le Bechor, il devra être sur le nom de ton frère, puisqu'on dit au Yavam, cet enfant, tu dois le nommer sur le nom de ton frère, et non pas comme c'est marqué dans le Pasuk. Il est Bedina, si on s'adresse au Bedin, Yakum al-Shem Achiaviv, on aurait dû dire, il faut le nommer sur le frère du père, sur le nom du frère de son père maintenant, puisque son père c'est le Yavam. Donc il est évident qu'on ne parle pas de l'enfant, donc c'est pas la Gzera Shava qui t'a empêché de parler de l'enfant, de toutes les façons on ne parle pas de cet enfant. Peut-être que la Torah s'adresse au Beit Din, elle dit comme ça au Beit Din, dites au Yavam, Yakum el Shem Achiv, que l'enfant qui va naître sera nommé sur le nom de ton frère, de son frère. Et donc peut-être qu'on aurait pu lire ce pasouk avec une halakha qui nous dit qu'il faut nommer l'enfant qui est né sur le nom du défunt. Et là, ta Gzera Shava a fait que télégramme. La Gzera Shava a annulé cette version du pasuk qu'elle nous a dit que ça vient simplement nous dire que le Bechor doit faire la mitzvah, c'est que le Bechor commence, mais on n'a pas l'obligation de nommer l'enfant qui va naître sur le nom du défunt. Ashtad Amad Kar Begadol Ktiv. Maintenant que tu me dis que le pasuk nous parle de Begadol, c'est-à-dire que on parle de l'enfant, de la personne qui doit faire Iboum. Emma Bechor Yabem Pashut Yavem. Donc on te dit, Vaya Bechor. Donc c'est lui qui doit faire Iboum. Qui? Le Bechor. Donc peut-être qu'on devrait dire que seul le Bechor peut faire Iboum et personne d'autre. Et maintenant dit, Imkem, Shet Achim Shulayab Lamad et Betrachmane la Mali. On a ramené des psukim dans le Dapim d'avant, d'où on apprend que Shet Achim Shulayab Beolamo, c'est-à-dire un frère qui est né après le décès de son frère, ne peut pas faire Iboum. Oui, mais si tu me dis que le pasuk est venu m'enseigner, la seule possibilité de hiboum, c'est le Bechor, Comment est-ce qu'on peut avoir une possibilité de la seule possibilité de Yiboum avec un Bechor? Et on a besoin en même temps de t'expliquer Echet Achiv Shelo Yavolamo. Echet Achiv Shelo Yavolamo, c'est-à-dire qu'il est né après le décès des autres frères. Donc il n'était pas le Bechor. Donc s'il n'était pas le Bechor, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu faire Yiboum. Forcément, quand on voit que la Torah me dit Echet Achiv Shelo Yavolamo, il ne peut pas faire Yiboum. Pourquoi est-ce que j'aurais pu penser qu'il fasse Yiboum, bien qu'il n'ait pas Bechor? Donc on voit que ce n'est pas limité au Bechor, ce n'est pas limité à l'aîné. N'importe qui des frères peut faire Yiboum. Peut-être que Béhémet, le seul à pouvoir faire Yiboum, c'est un aîné. Mais on a deux aînés, l'aîné du père, l'aîné de la mère. Et donc, si jamais il est Echet Achiv Shelo Yavolamo Olamo, mais il est quand même Bechor, comment est-ce qu'il est Bechor? Mais pas possible, s'il y a un frère de... Le Yiboum, c'est que par les frères du père. Comment est-ce qu'il est défini comme Bechor? Si tu me dis que le Yiboum, c'est que chez le premier-né, et lui, il est né après le défunt, comment c'est possible? Tout simplement, il est Bechor par la mère. Donc, ils ont le même père. Le défunt est Bechor, et par le père, et il est décédé. Et le Yavam est né après le décès de son frère, mais il est quand même défini comme Bechor parce qu'il est le premier-né de sa mère, et il est quand même le frère de son défunt frère, donc il aurait dû faire Yiboum. Et donc, peut-être que Béhémet, le Passouk, pense que le seul capable de faire Yiboum, c'est un Bechor en général. Tu ne peux, t'aurais jamais pu imaginer que, dans le cas de Bechor par la mère, c'est lui qui fait Yiboum. De Yiboum, Benachala, Talachmana. Puisque le Yiboum dépend de l'héritage. Et donc, Benachala, Minahav, Velominahem. Donc, l'héritage, c'est seulement par le père et non pas par la mère. Donc, cette définition de Bechor n'est que par le père et non pas par la mère. Donc, on n'aurait jamais pu remplacer la Avamina d'obligation de Bechor en disant, ben voilà, il est Bechor. Mais non. Si dans Yiboum, le Bechor est celui qui hérite, mais toi, tu ne peux pas hériter parce que tu es Bechor par la mère. Donc, le Bechor de Avamina n'aurait pas pu être le Bechor par la mère. Jacques Maroc, autre proposition. VMA, peut-être que Kiika Bechor, Titka Mitzvat Yiboum, Kiika Bechor, le Titka Mitzvat Yiboum. Donc, qui te dit qu'on ne parle pas dans ce pasouk de Bechor vraiment? On parle simplement du plus grand des frères, comme c'est marqué dans la Mishnah. Peut-être que le pasouk nous dit, si dans cette famille il y a un Bechor, s'il n'y a pas de Bechor, le Titka Mitzvat Yiboum, c'est-à-dire que, Vaya Bechor, on aurait compris Bechor Mamash, mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul à pouvoir faire Yiboum. Il faut que dans la fratrie, il y ait un Bechor. Seulement dans ce cas-là, il y aura une mitzvah d'Yiboum, mais sinon il n'y aura pas de mitzvah d'Yiboum. Et donc on peut comprendre pourquoi est-ce que la Torah avait besoin de me dire que Echet Achiv Shelo Yavolamo, un frère qui est né après le décès de son frère, ne peut pas faire Yiboum. Parce que dans l'absolu, il aurait pu faire Yiboum. À partir du moment où il y a plusieurs frères et il y avait un Bechor, ils peuvent tous faire Yiboum. Amaka, Metechad Mehem. La réponse de la Gemara, c'est qu'il est marqué dans le Pasuk, Metechad Mehem. Le début du Pasuk, c'est qu'il échoue à Chimerdav. Donc il va avoir deux frères ensemble, enfin des frères. Et le minimum du pluriel, c'est deux. Metachad Mehem est l'un des deux décédés. Et il est marqué que, donc on comprend qu'il n'y avait que deux. Milo Askinan Demit Bechor va marcher en Aliyah Memkatan. N'est-ce pas qu'on peut parler d'un cas où le Bechor est décédé et le second frère, le seul frère qui se trouve là, doit faire Yiboum. Et donc on voit qu'on n'est pas limité au Bechor, n'importe qui peut faire Yiboum. Et on ne dit pas forcément. Emma Demit Katan va marcher en Aliyah Memkatan. Peut-être que, on parle d'un cas où c'est l'enfant, le jeune qui est né, et c'est le Bechor qui doit faire Yiboum. Et donc, on revient à notre question. Qui t'a dit de dire que le Bechor, ça veut dire le plus grand des frères? Peut-être que le Bechor, c'est simplement le plus grand. Amiyat Rahmana, Echet Achiv Shelo Yavolamo. On revient à la réponse initiale. Puisqu'il est marqué que Echet Achiv Shelo Yavolamo, un frère qui est décédé, qui est né après le décès de son frère, ne peut pas faire Yiboum. Ce frère, il est forcément pas Bechor, et on voit qu'on a besoin de l'exclure du Yiboum, ça veut dire que dans l'absolu, il aurait pu faire Yiboum, donc il est impensable de limiter le Yiboum au Bechor. Ve'ema qu'il est Kabchor, Kanam Katan Zacha. Ve'e Kabchor, Kanam Katan Mozacha. Peut-être que la précision de la Torah, quand elle a dit qu'il faut un Bechor, c'était pour nous dire que Kanam Katan Zacha, quand il n'y a pas de Bechor, si, hein, donc il y a simplement plusieurs frères, il y en a un qui est plus grand que l'autre, puisqu'il n'y a pas de Bechor, alors on permet. Enfin, on valide le Yiboum qu'aurait fait un petit sans nous poser la question. Mais Iika Bechor, mais s'il y avait un Bechor, on n'aurait pas laissé un autre enfant, Kadam Katan, un autre des autres plus jeunes, Lozaha. Et moi, je dis qu'il y a joué à Chimirdam. Donc, Shai Yeshua Achim Zelazé. Donc, puisqu'on a marqué qu'il y a joué à Chimirdam, en fait, ça répond à toutes les questions. On met tous les frères à égalité, n'importe lequel peut faire Yiboum. Un Bechor comme un autre. Vema qui Iika Bechor, Léadar Aganol, qui Iika Bechor, Nchosé Netzel Ganol. Peut-être que la précision de la Torah, quand elle te dit qu'il y a un Bechor, c'était pour te dire que s'il y a un Bechor, bon, alors il faut aller vers le Bechor. Et sinon, on va vers le plus grand. Et donc, et si jamais aucun des frères ne veut, on va forcer le plus grand à le faire, qu'il est qu'un Bechor. Mais quand il n'y a pas de Bechor, Bon, bah, personne ne veut faire, on va être bloqué. On ne peut obliger personne. Et si tu me dis que c'est ça la précision du pasouk, à la matanée, pourtant il est marqué, Abaye Kashisham. Donc Abaye nous a enseigné, Mitzvah Begadol Yabem. C'est le plus grand que l'affaire Eboum. On va chez le frère qui est plus petit que lui. S'il ne veut pas, on retourne chez celui qui est plus grand que lui. Donc on voit que il y a plusieurs frères, et il y a Achiva Katan, c'est-à-dire celui qui est un peu plus jeune que lui. Il y a d'autres qui sont plus jeunes que lui. On ne va pas chez n'importe lequel des frères, on va toujours dans l'ordre du plus grand au plus petit. Donc on voit que oui, on va dans cet ordre-là. Et donc, on a oui une obligation de définir et d'aller par le plus grand. D'où est-ce qu'on le sait? Parce qu'il y a marqué Vaya Bechor. Donc, le moment de la Gemara, pourquoi est-ce que tu m'expliques Vaya Bechor? Peut-être que la définition d'aller vers le plus grand du plus petit, c'est seulement quand il y a un Bechor. La Gemara répond, Ke Bechor, Ma Bechor, Bechorato Gamalo, Avgadol, Delato Gamalo. Ben, il n'y a pas de raison de faire une différence. De la même manière qu'un Bechor, pourquoi est-ce qu'il passe en premier? Parce qu'il est plus grand. Ben, celui qui est plus grand, il passe en premier. Vema qui vient ben Bechor, Jusqu'on Nachala, qui vient ben Pachutli, Jusqu'on Nachala. Peut-être que la précision du pasouk de Bechor, c'est pour nous dire que le Bechor, quand il a fait Eboum, c'est lui qui va prendre l'héritage de son frère, mais si ça n'est pas un Bechor, il ne le prendra pas de Nachala. Varekam, celui qui remplace son frère, et puisqu'il a remplacé son frère, il n'y a pas de raison de lui enlever cet héritage. Et la Bechor de Karia Achmana, la Mali, Olima Ilcheta. C'est-à-dire, après que tu m'as expliqué, en vérité, il n'y a aucun statut spécial au Bechor, parce qu'il y a marqué qu'il est joueur, Rimerda, ils sont tous à égalité. Et qu'on va simplement vers le plus grand. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé que Bechor? Alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette définition? Les Greuta, c'est quelque chose qu'il perd à travers cette drasha. Ma Bechor, non, tel que Beraoui Kebemursak. De la même manière qu'un Bechor ne prend pas Beraoui Kebemursak, c'est-à-dire des biens qui sont censés arriver, qui ne sont pas encore dans la propriété de son défunt père, le Bechor ne peut pas hériter une double part. Il hérite d'une part comme les autres, mais pas plus. Afou, le Yamam qui va venir le remplacer, et le Notel Beraoui Kebemursak. Il ne va pas hériter des biens de son frère Beraoui, c'est-à-dire ce qui est censé arriver chez son frère. Sauf sur ce qui est Mursak, il hérite, mais sur ce qui est Raoui, il ne va pas hériter. Ils vont être à partager. Pardon, il ne va pas hériter des biens qui sont censés arriver chez leur père en tant que Bechor et en tant que Bechor pour recevoir par double, il recevra seulement seulement dans le Mursak, il recevra par double, mais dans le Raoui, ce qui est censé arriver, il recevra comme tout le monde. Anit'an ala Shifra. Dit la Mishnah, celui qui est Nita Ananashifra, c'est-à-dire, on a entendu, il y a des bruits à son sujet, qu'il a eu un rapport avec une Shifra. Ou alors, Venishtachera, pardon, et elle a été libérée. Ou alors, Nochrit. Ou alors, on a entendu qu'il a eu des rapports avec une non-juive, Venidgaira, et elle s'est convertie. Rezelo Echnos, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Veim Kanas, et si c'est marié avec elle, El Motsin Biadom, on le laisse marier avec elle. Anitan Aleshatish, un homme au sujet duquel on entend qu'il a eu un rapport avec une femme mariée. Cette femme mariée n'avait plus le droit de rester avec son mari. Donc on l'a forcée à divorcer. Afalpich et Kanas, même si l'amant de cette femme-là s'est marié avec elle, Yotzi, il doit divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle lui est interdite, puisqu'on sait que autant pour le mari, autant pour l'autre personne, elle est interdite. La Gemara demande, Hagioret Miava. Donc, dans la Mishnah, on comprend que, au sujet de la convertie, elle s'est convertie après, on la considère comme convertie, c'est-à-dire, il a eu un rapport avec elle quand elle était goy, et puis après, on a un problème avec le fait qu'il s'est marié avec elle. Oui, mais ça ne nous dérange pas, la conversion, elle est bonne. Le seul problème, c'est qu'on ne les laisserait pas marier ensemble. Urmino demande à Gemara, Echad Dishin Gerer le Shumisha, un homme qui s'est converti par amour pour une femme, Echad Shin, amour, entre guillemets. Echad Shisha Shin Gerer le Shumish, ou alors une femme qui s'est convertie pour un homme, Echad Mishin Gerer le Shum, le Shum, Chal Melachim. Une personne qui s'est convertie parce qu'il espérait être assis à la table du roi, donc vivre aux frais du roi en tant que juif. Voilà le Shumav de Shlomo, pour faire partie des Avadim de Shlomo. Donc c'était un certain pouvoir. Et là, le Grim, puisqu'ils se sont convertis par intention, ils ne sont pas définis comme Grim d'Ivra, Binechem, Yachar, Binechem, Yomir, Echad, Grim, Ariot, que ce soit les convertis par les lions, c'est-à-dire ceux qui avaient peur des lions. Comme on a vu au sujet des Koutim plusieurs fois. Echad, Grim, Chalomot, ceux qui ont fait toutes sortes de rêves. Et dans le rêve, ils ont vu un ange qui leur disait de se convertir. Vechal qui est Mordechai et Esther, les convertis de l'époque de Mordechai et Esther qui avaient peur des juifs et donc qui se sont convertis. Tout cela, Enam Gerim ne sont pas considérés comme convertis. Hachéid Gairo, Bismanazé, jusqu'à qu'ils se convertissent aujourd'hui. Bismanazé, c'est un calatar, pas compris. Quel rapport se convertir aujourd'hui? Enam Kevismanazé, c'est-à-dire qu'ils doivent se convertir comme aujourd'hui. La situation du peuple juif n'est pas enviée, et s'il se convertit quand même, c'est qu'il le fait sans intérêt, il est converti. En tous les cas, dans cette braïta, il est marqué que tout celui qui se convertit par intérêt n'est pas converti. Pourquoi? Parce que dans le Mishnah, il est marqué qu'un homme qui avait des rapports avec une femme qui était non-juive, alors si après s'est converti, alors la question c'est de savoir, on lui interdit de se marier avec elle, mais s'il s'est marié, il reste marié. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème avec sa conversion, Bichlal. C'est contraire à notre enseignement. L'alakha n'est pas comme cette Mishnah, mais comme celui qui pense qu'on valide la conversion. Si la femme est convertie, alors pourquoi est-ce qu'on ne lui permettrait pas de se marier avec elle? Mishum de Rabbi Assi, par rapport à l'enseignement de Rabbi Assi, qu'est-ce que Rabbi Assi nous a enseigné? Donc enlève de toi, la bouche tordue, c'est-à-dire ceux qui vont parler sur toi. Ah, il s'est marié avec elle. Ah oui, il la connaissait avant. Mais les autres fatayim, c'est ceux qui vont parler du mal sur toi. Donc, fais en sorte que personne n'ait à rappeler ton historique. Et donc, quand tu vas te marier avec cette femme avec laquelle tu as eu un rapport avant qu'elle était juive, on va dire, ouais, bon, elle s'est convertie pour ça, elle ne fait pas intérêt, etc. Donc, il vaut mieux l'interdire les khatrila, mais bediyavan, si elle s'est convertie, et qu'ils se sont mariés, ils resteront mariés. Tanu rabanan. En mekablim gerin imata mashiach. La Marita nous dit que, au temps du Mashiach, on n'est pas mekabel les guérim. C'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit qu'on valide. S'il y a eu conversion, elle est validée. Mais les khatrila, on empêche la conversion. En mekabel les guérim imata mashiach. Donc, on n'accepte pas les guérim imata mashiach, puisqu'ils le font par intérêt. Kayotsebo, le kiblu guérim, l'obi ben David, l'obi ben Shlomo. Dans les deux périodes de David et Shlomo, il n'y avait pas de conversion, puisque c'était une période où le peuple juif était très puissant, et donc les gens se convertissaient par intérêt. Amar Rabbi Elazar, Maïka, d'où est-ce qu'on sait qu'on n'accepte pas les guérim à ce moment-là? En Gour Yagour, il est marqué dans le passage que quand En Gour, donc celui qui va venir se convertir, Yagour, il pourra le faire Efes Meoti, seulement quand moi, Hachem, je ne suis pas avec vous. Migaritar, celui qui va se convertir avec toi, Alei Ripol, lui va recevoir le Namaba, Validachlo, de quelqu'un d'autre, non, c'est-à-dire que ceux qui viennent se convertir au moment où, voilà, ça va très bien pour le peuple juif, ils le font que par intérêt. Hanitan Aleshatish, donc celui qui, sur lequel il y a un bruit persistant, comme vous verrez dans la Gemara, qu'il a eu un rapport avec une femme mariée, et cette femme donc a quitté son mari, elle n'a pas le droit de se marier avec la personne d'après. Amaravu Be'edim, on parle d'un cas pour forcer son mari à divorcer, on parle d'un cas où on a des témoins qu'elle a eu un rapport avec cette personne-là. Amar Rav Shechet, quand il a entendu ça, il s'est dit comme ça, Amina, il a dit, Kinaim Meshachivra Vamala Ishmaïta. Quand Rav était un peu endormi, il a dit cette halakha. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit ça quand il était à 100% de concentration. Pourquoi? Netanya, il marquait dans une marita, Nitan Leshatish. Donc un homme qu'on suspecte d'avoir eu un rapport avec une femme mariée, Vehoti ou Aliano, et à cause de ça, il a dû divorcer. Venez de Gacha Metachate d'Acher. Et puis, elle est partie se marier avec une personne, aucun rapport avec cette personne avec qui elle avait eu un rapport dans le cadre de son mariage. Donc elle a passé mari A, il y a eu un bruit, on a dit madame tu divorces, elle s'est mariée avec mari B, et en fin de compte elle va vers mari C qui était son amant quand elle était avec son mari. Im Kanas, si il a eu un rapport, si il s'est marié avec elle, il ne la quittera pas. Echiname. De quoi on parle? Ideika Edim. Si on a des témoins et on peut affirmer qu'elle a eu un rapport interdit avec cette personne-là, qui a taché vers ce les calamas y avait. C'est vrai que le fait qu'il y a eu un second mariage au milieu, donc les gens vont dire, nous on avait entendu qu'elle était très proche de monsieur Intel, mais on fait quoi de séparer quelqu'un d'autre? Alors c'était caniré, le bruit était faux. Ok. Donc, mais s'il y a des témoins, qu'est-ce que ça change le fait qu'il y ait quelqu'un qui peut, l'historique qui affirme qu'elle n'était pas en rapport avec cette personne-là? Donc forcément, et là, forcément, parle d'un cas où il n'y avait pas de témoin. Et pourquoi est-ce qu'on lui permet de rester marié à cette personne, à ce troisième mari? Parce que le deuxième mari va faire taire les voix qui disaient que oui, elle avait eu un rapport déjà quand elle était mariée avec son premier mari, avec le futur, là, le troisième. Donc puisqu'elle est mariée entre le premier et le troisième, elle s'est mariée à quelqu'un d'autre, ils vont dire, ils ne se connaissaient pas, le premier et le troisième, parce que le fait qu'on voit qu'il y a une pause entre le premier et le troisième par le deuxième, c'est-à-dire que cette femme ne connaissait pas encore le troisième. C'est seulement pour cette raison qu'on lui permet de rester marié avec le troisième, mais sinon, on lui aurait dit « Madame, tu divorces ». Donc on voit qu'on peut faire quitter une femme de son mari, même s'il n'y a qu'un col, même s'il n'y a qu'un bruit, mais même sans témoin. Comment Rav peut affirmer qu'il faut qu'il y ait des témoins? En vérité, Rav pourrait te répondre à cette question. Même s'il n'y avait pas une autre personne, on aurait dû lui dire C'est-à-dire que seulement on ne peut pas faire divorcer une femme que par un bruit, il faut qu'il y ait des témoins. Et Rikamar. Mais la Mishnah nous dit comme ça, le chidouche de cette barita vient nous dire que même s'il y a eu une personne au milieu entre le numéro 1 et le numéro 3, les chatrela l'ichlos, elle ne devrait pas se marier avec le numéro 3. Puisque c'est marqué, si jamais elle s'est mariée avec le numéro 3, elle pourra rester. Ça veut dire que les chatrela n'a pas le droit. Mais tu veux devant la Gemara, bah, mais le varim amourim, que chez elle, la banim, ah, bah, les la banim, le tetsé. Dans la barita, il est marqué que quand est-ce qu'on l'a fait sortir, seulement quand quand elle n'a pas encore d'enfant de son premier mari. Mais si elle a les enfants de son premier mari, l'OTT, on ne va pas la faire divorcer du dernier mari. Pourquoi? Parce que après, les gens vont dire, ah, tu vois, on l'a forcée à divorcer de son mari d'aujourd'hui. Ça veut dire que Béhémet, elle s'est mal conduite quand elle était avec son premier mari. Et donc, ces enfants-là, ça sent pas bon. Ve'im, baou, edetouma, devant la Gemara, pardon, c'était l'île. Im, baou, edetouma, afilush la kamabalim, t'etc. Si, d'après Rav, on ne peut faire divorcer une femme, non pas par le bruit, mais seulement par l'affirmation de témoin. Pourquoi est-ce que tu me dis, ça, il y a une différence si elle a des enfants ou elle n'a pas d'enfants? Même si elle a des enfants, puisqu'il y a des témoins, on devrait la forcer à divorcer. Donc en quoi le fait qu'on fait une précision, on te dit ça dépend si elle avait des enfants du premier mariage ou pas, ça va à l'encontre de Rav. Rav, ok, la matitine, chez Yesh la banim, ve Yesh la edim. Rav explique que Mehmet, si elle n'a pas d'enfants, alors on ne va pas la forcer à se divorcer, à divorcer. Et on va la forcer seulement s'il y a des témoins. Et elle divorcera si elle a des témoins, même si elle a des enfants. Donc, je répète parce que je crois que j'ai dit une erreur. Si elle n'a pas d'enfants, on la force à divorcer, telle qu'elle, sans témoins. S'il y a des enfants, c'est seulement avec des témoins. Et Rav, quand il a expliqué notre Mishnah, Beyesh Laedim, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on forçait le premier mari à divorcer, bah parce qu'il parle d'un cas où il y avait des enfants. C'est pour ça qu'il a précisé qu'il fallait qu'il y ait des témoins. Pourquoi est-ce que tu as besoin de compliquer la chose? Tu me dis, elle a des enfants, c'est pour ça qu'on parle d'un cas où il y a des témoins. Et la raison pour laquelle on peut la faire divorcer, c'est parce qu'il y avait des témoins. Peut-être que en la banim, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'enfants. Enfin, grave, des kaedim, et bien qu'elle n'a pas de témoins, elle devrait être forcée à divorcer. Rava matitin kachite. Rava répond pourquoi est-ce que Rava explique comme ça, puisque les termes utilisés par la Mishnah l'ont amené à cette conclusion. Maïriya netane veoti uha. Pourquoi c'est marqué veoti uha? Oti uha, c'est on l'a fait sortir. Litne, on aurait dû dire otiya, il l'a fait sortir, c'est-à-dire le mari a divorcé. Et la kol otiwa bevedim. Le terme de otiwa est adapté au bedim, et le bedim ne peut forcer que s'il y a les témoins. Beedim ou demafke, donc on parle d'un cas où c'est le Bédil qui a forcé, donc c'est pour ça qu'on parle par témoin. Et si on parle par témoin, donc forcément, on parle d'un cas où elle a des enfants, et c'est pour ça que, puisqu'elle a des enfants, on a besoin de passer par la case témoin. Parce que si elle n'avait pas d'enfants, pardon, si elle n'avait pas de, si elle a des enfants et qu'il n'y a pas de témoin, elle ne devrait pas divorcer. Iba et Tema, autre réponse. Mehmet Rav pense qu'on ne peut pas faire divorcer une femme par un bruit. C'est-à-dire qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'ait pas d'enfants, par un bruit, ça ne marche pas. Mais Hanematnita, Hanematnaita, les deux brayotes qu'on a ramenées, c'est-à-dire, on voit que le mari doit divorcer même s'il n'y a qu'un col. Rebihi, ça va d'après Rebihi. Netanya, il est marqué. Ochel, c'était un colporteur qui vendait des parfums pour femmes. Sheyotse, il sort de chez lui, Vishach, Regren, Vesina. Elle est habillée avec un habit qui n'est pas. C'est comme un pantalon comme ça qu'elle mettait par tsiyot. Amar Rebi Oli Bechor Alavar, ça sent pas bon quand j'arrive à la maison, on me dit qu'elle est habillée comme ça. Donc ça veut dire que il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, tetsé. Donc on peut forcer le mari à divorcer. Rok le Mala Milakila. Akila, c'est le drap qui était tendu sur un lit avec des poteaux autour. Et puis on voit qu'il y a un crachat sur ce drap-là. Amar et Bioil me croire d'avoir. Le fait que ce crachat a été fait vers le haut, c'est forcément quelqu'un qui était allongé sur le dos. Et donc c'est forcément elle qui était allongée sur le dos et qui a eu un rapport. Tetsé. Min alim afukhim, les chaussures à l'envers près du lit. Tachatamita. Amar et Bioil me croire d'avoir. On a quand même, on comprend qu'il y a des risques de comprendre que ces chaussures-là à l'envers sont les chaussures de quelqu'un d'autre. Tetsé, elle doit divorcer. La Gemara, elle reprend tout de suite. Mais Alim Afukhim, s'il y a les chaussures, t'as qu'à regarder. à qui sont ces chaussures. Et là, mais comme Minalima Fukrim, en fait, eux, ils avaient des lits qui étaient, enfin, les maisons qui étaient dans du sable. Donc, il y avait les signes sous le lit. Et sous le lit, il a vu qu'il y avait des signes, mais pas de la semelle, parce qu'on aurait pu identifier la semelle de quelque chose à l'envers. Donc, on comprend qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu dévoiler qu'il était là. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, la même chose, oui, le Bechor à l'avoir, etc. Donc, Rav, lui, pense qu'on ne divorce une femme que par témoignage. Rémi pense que quand il y a une suspicion de rapport interdit, on va forcer à divorcer. On va s'arrêter là, bien qu'on est au milieu de la sugya. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. Donc, on a vu dans notre Mishnah qu'il était la mitzvah de faire iboum était une mitzvah qui imputait à l'enfant le plus grand, pas forcément au Bechor. On va commencer par le Bechor, mais on va aller, ça on l'a vu dans la Braïta, si le Bechor ne veut pas, on va aller chez quelqu'un d'autre. Un défunt qui ne pouvait pas avoir d'enfant, il n'y a pas d'iboum. Une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, il n'y a pas de iboum. On a vu dans les dapis précédents que si un homme qui n'avait pas d'enfant fait iboum, il n'avait pas besoin de le faire, mais s'il l'a fait, la femme est définie comme meyoubemet, c'est-à-dire yevama, c'est-à-dire qu'elle est mariée. On a expliqué le passouk donc au sujet du yavam, et donc il n'y a pas d'obligation de nommer le yavam sur le décès, sur le défunt frère. Le yavam va hériter de son frère, et donc c'est lui le seul qui va hériter beraoui velo bemorzak velo bemeraoui, c'est-à-dire seulement dans les biens que son père avait, mais non pas dans les biens qui sont censés arriver. On a vu aussi qu'une femme qui est suspectée d'avoir eu des rapports quand elle était non-juive et qu'elle s'est convertie, la conversion est validée, et les khatrila, il ne voulait pas se marier avec elle, mais s'il s'est marié, il peut rester avec elle. Par contre, une femme mariée sur laquelle il y avait des bruits, on verra dans la Gemara de quel genre de bruit on parle. Alors si on a des bruits précis, madame un tel était avec monsieur un tel alors que ce n'était pas sa femme, il n'a pas le droit de se marier avec elle, et si jamais il s'est marié avec elle, on va la faire divorcer. Marloquette entre Rav et Rémi, d'après la conclusion, est-ce que le bruit est suffisant pour la forcer à divorcer, ou il faut avoir un témoignage? On a vu en tous les cas que si elle avait des enfants, même Rav serait d'accord que pour la forcer à divorcer, c'est-à-dire, on a vu une autre explication, que d'après Rav, on peut la forcer à divorcer quand il n'y avait pas d'enfants, mais s'il y a des enfants, on ne pourra la forcer à divorcer que s'il y a témoignage. D'affecter la voix au Hachem, n'oubliez pas de faire Hazara et faites Hazara pour ne pas oublier. Et à demain, les Hashem.